ce soir? Non. Pas de dédicace. Allez messieurs. Et Erev Tov. On va essayer de dégager quelques idées sur la paracha de la semaine que nous avons lue ce Shabbat, parachat Mishpatim. Alors, tout d'abord, vous remettre un peu dans le contexte qui est effectivement important à saisir, dans le lien qui existe entre Yitro et Mishpatim. Ce lien-là, il est extrêmement important et j'ai insisté là-dessus ce Shabbat pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a en fait deux approches radicalement opposées entre la vision juive et la vision des nations du monde sur ce qu'on appelle les Mishpatim. Mais quand je dis radicalement opposé, c'est que même pour nous qui vivons en France, qui avons grandi en France avec des valeurs françaises, etc., même pour nous, cette approche-là du judaïsme peut nous paraître un peu choquante. Et donc du coup, c'est l'occasion effectivement de mettre le doigt sur, lorsqu'il y en a, des différences majeures, mais vraiment majeures, sur la conception des choses et sur les principes qui sont véhiculés par la Torah et qui ne sont pas forcément celles dans lesquelles nous vivons, bien que nous soyons très heureux de vivre dans ces valeurs-là, puisqu'on s'est habitué, d'accord, mais de voir qu'en réalité, les choses ne sont pas si évidentes que ça. Et vous allez voir dans quelques minutes de quoi je veux parler. Alors tout d'abord, donc, pour vous remettre dans le bain, effectivement, vous savez très bien, je crois qu'on l'a un petit peu abordé la semaine dernière, que le lien qui existe entre Yitro et Mishpatim est un lien qui est très important. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le Matan Torah, le don de la Torah, l'épisode de la révélation de Dieu au Mont Sinaï, c'est un épisode en réalité qui s'étend sur deux parachiotes différentes. Il y a sur la paracha de Yitro, ainsi que sur la paracha de Mishpatim. La paracha de Mishpatim, elle est tout autant, la paracha du don de la Torah que la paracha de Yitro. Vraiment pas moins. On va dire, ah non, mais il y a les 10 commandements, c'est dans Yitro. Oui, c'est vrai, ok, les 10 commandements, c'est dans Yitro. Mais laissons de côté les 10 commandements. L'épisode lui-même, de Moshe qui monte sur la montagne, qui descend, qui remonte, qui redescend, qui va discuter avec les enfants d'Israël, qui va passer des messages, qui va ramener les réponses du peuple, etc. Cet épisode-là, donc qui prend plusieurs jours en réalité, cet épisode-là, il s'étend autant sur Yitro que sur Mishpatim. Ce qui est un peu compliqué, c'est que ce n'est pas chronologique. Ça, effectivement, c'est une complexité quand on lit les deux parachutes de Yitro et Mishpatim. C'est que ce n'est pas chronologique. Et c'est pour ça qu'on est un peu perturbé. Pourquoi ? Parce que quand on lit Yitro, on a l'impression d'avoir rempli toutes les cases de tous les jours, depuis Rosh Chodesh du mois de Sivan, jusqu'au don de la Torah. On a des éléments dans Yitro qui viennent nous dire, jour après jour, ce qui s'est passé. Donc, dans notre tête, quand on finit Yitro, on se dit, ça y est, c'est terminé. L'épisode don de la Torah est totalement terminé. On est du 1er au 6, c'est terminé. Et le problème, c'est qu'à la fin de Mishpatim, on revient sur des événements qui nous racontent l'histoire qui s'est passée entre le 1er et le 6. Et donc, du coup, effectivement, c'est pour ça qu'on est perturbé. C'est qu'on a des éléments qui sont antidatés, d'une certaine façon, d'accord, où il va falloir remettre les choses dans leur contexte pour re-remplir les fameuses cases qu'on avait du 1er Sivan jusqu'au 6 Sivan avec de nouveaux éléments, des nouvelles précisions qui nous manquaient, etc. La décision qui nous manquait essentiellement, enfin, une des grandes décisions, c'est le Naaseh Venishma. Le Naaseh Venishma, il faut bien le caler quelque part, ce Naaseh Venishma. Et il n'est pas dans Yitro, il est dans Mishpatim. D'accord ? Et le Naaseh Venishma, il ne se produit pas à la fin de la révélation du Har Sinaï. Donc du coup, ce qui est raconté dans Mishpatim, il faut effectivement qu'on le relise avec les commentaires pour voir exactement quand est-ce que ça se passe et comment ça rentre dans la même période qui est déjà racontée dans Yitro. Donc en réalité, Yitro, Mishpatim, les deux parachiotes sont tout aussi importantes à étudier au niveau de l'épisode Matan Torah. Le Matan Torah, ce n'est pas que Yitro. Yitro, c'est le début, c'est une partie. Il y a les 10 commandements, c'est vrai, mais dans Mishpatim, à la fin de Mishpatim, on revient sur l'histoire, parce que rappelez-vous, dans Mishpatim, on a quoi ? On l'a lu il n'y a pas longtemps, d'accord ? On a quoi ? On a des sacrifices qui vont être effectués, qui n'ont pas été racontés dans Yitro. Il y a le fameux épisode où on va balancer du sang sur le peuple d'Israël en signe d'alliance, d'accord, avec le sang des corbanotes, la moitié qui sera balancée sur le peuple, etc. C'est pas du tout raconté dans Yitro. Pourtant, c'est un truc qui va bien se passer dans les fameux jours en question. Donc ça, on nous le raconte où ? Dans Mishpatim. Et le Naaseh v'Nishma, c'est dans Mishpatim, c'est pas dans Yitro. Donc Mishpatim, c'est une part constitutive du Matan Torah. C'est aussi important dans notre façon de l'étudier, je parle de la fin bien évidemment, d'accord, que l'épisode Matan Torah de Yitro. Yitro et Mishpatim, d'accord, c'est deux parachiotes tout aussi importantes qui viennent nous raconter l'épisode du Matan Torah. Et pour avancer encore un peu dans notre raisonnement, si on prend le plan du texte, d'accord, des fois c'est important d'avoir un plan de texte. Le plan du texte, on a quoi dans le plan ? On a, dans Yitro, on a le fameux passage qui commence par « Bachodesh HaShelishi ». Magnifique passage. Le troisième mois depuis la sortie d'Égypte, nous sommes arrivés dans le désert du Sinaï. D'accord ? Donc c'est le mois de Sivan, ça y est, on y est. D'accord ? On est dans le désert du Sinaï, on est au pied de la montagne concrètement. D'accord ? On y est, on attend, on est prêt à recevoir la Torah, on va voir plein de messages, comment se préparer, qu'est-ce qu'il faut faire, qui va écouter, qui va pas écouter, le peuple qui va dire « on veut écouter », Moshe qui dit « non, non, c'est que moi », le peuple qui insiste, il refuse de laisser Moshe monter seul. D'accord ? En disant « c'est hors de question, pourquoi ça serait toi ? On n'a pas besoin d'un émissaire. Dieu, s'il veut nous parler, il nous parle à nous. D'accord ? Pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs pour ça que les deux premiers commandements, ils ont été donnés directement par la bouche d'Akadosh Baruch Hu au peuple. Parce que c'est le peuple qui a demandé. Comme Rashi le dit, « Retsonenu lirot et malkenu ». Notre volonté profonde, c'est de voir nous-mêmes notre roi. On n'a pas besoin d'un émissaire. Moshe, on t'adore, mais là, pour la révélation, on veut que Dieu nous parle directement. Donc, ils vont vite changer d'avis, puisque après les deux trucs, à chaque fois, ils meurent. Donc, ils disent « Ok, bon, vas-y ». D'accord, mais leur volonté profonde, c'était d'écouter directement la révélation de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Bachodesh HaShelishi, le troisième mois, d'accord, c'est la folie, c'est l'ambiance, c'est la tension aussi, d'accord. On arrive au pied du mont Sinaï. Bien. Ensuite, il y a les 10 commandements. Tout ça, c'est Yitro. Génial, les 10 commandements. Ensuite, à la fin des 10 commandements, on a un passage énigmatique qui est la construction de l'autel des sacrifices, mais pas tant dans le sens de savoir comment on construit l'autel des sacrifices. En réalité, c'est surtout pour nous dire comment doit être construite la pente qui nous permet d'accéder à l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices est en hauteur, il faut une pente pour y accéder. Se pose la fameuse question, pour accéder à une pente, il faut mettre des marches. On met des escaliers, on monte des escaliers. La Torah nous dit, hop, 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 pas d'escalier. Un escalier interdit. La seule chose qui sera autorisée, c'est de faire une pente. D'accord ? Mais la raison, là, pour pas qu'on voit la nudité, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit. Il y a simplement écrit, pour monter sur l'autel des sacrifices, il faut une pente. Pas d'escalier, mais une pente. Point. D'accord ? Pour ne pas... Alors, le texte est un peu énigmatique. Hein, c'est pour ça que la réponse sera celle que tu viens de donner. D'accord ? Pour ne pas souiller le sol du Mizbéar. On dit souiller le sol du Mizbéar. Moi, je vois pas en quoi je souille quoi que ce soit avec des marches plutôt qu'avec une pente. Du coup, les Chachamim vont nous dire c'est une marque de respect vis-à-vis des marches, etc., pour pas qu'elle voit ta nudité, toi qui marches au-dessus avec un pantalon un peu large, d'accord, etc. Mais on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça fait dans l'histoire du don de la Torah ? Pourquoi on nous parle de ce détail qui est le bienvenu dans la paracha de Shabbat prochain ? Oui. Terouma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé, là sur la construction du Mishkan, que tu me donnes le détail de la rampe, pas des escaliers, d'une rampe, c'est très bienvenu là-bas. Mais là, après les 10 commandements, quel est le rapport ? Pourquoi tu me parles maintenant de cette rampe d'accès pour l'autel des sacrifices ? C'est pas le moment, d'accord ? C'est pas du tout le sujet. Donc on a ça qui tombe comme ça, comme un petit cheveu sur la soupe. Et puis après, on a quoi ? Ve'ele Amishpatim. Ok ? Toute la paracha énorme, pas tant en taille, c'est vrai, mais elle n'est pas si longue que ça, mais en quantité de mitzvot présentées dans cette paracha, 53 mitzvot, d'accord, dans les Mishpatim. Dans les 53, il y en a 42 qui sont là pour gérer la relation entre l'homme et son prochain, d'accord, donc les relations humaines, sociétales, de la... Oui, bien sûr. Ah c'est plus que la base, hein. Ouais, bien sûr. D'accord, de tout la responsabilité civile, le code civil, etc. Tout ça, c'est effectivement dans le début de Mishpatim. Donc, on a toutes ces halakhot-là qui sont données comme ça en vrac, les unes derrière les autres dans Mishpatim. Et ensuite, on revient, donc c'est là, ça y est, on y est, à la fin de Mishpatim, quelques derniers versets de Mishpatim, où on revient sur l'épisode du don de la Torah. Donc quand on voit le plan de l'histoire, on a don de la Torah, Mishpatim, plein de lois, plein de lois, plein de lois, et hop, on revient sur le don de la Torah à la fin de Mishpatim. D'accord ? C'est ça le plan de Yitro et Mishpatim. Pour preuve, Rashi lui-même, lorsqu'il est écrit dans Mishpatim, à la fin de Mishpatim, « Ve'el Moshe Amar, allez El Hachem !» Il y a un moment où Dieu s'adresse à Moshe, il lui dit « Moshe, monte vers Dieu !» Donc viens me voir, en haut de la montagne. Rashi se pose la question, dit « C'est quand ça ? Quand est-ce que Dieu lui demande ça ?» C'est fini l'histoire. Rashi rentre dans notre questionnement. Il dit « Attends, mais le don de la Torah, c'est terminé. Quand est-ce que Moshe, il remonte ? Pourquoi il nous dit « remonte » ? Du coup, Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit ?« Parashazo, ce passage-là, Ne'emra kodem aseret adibrot. » Il dit « Attention, attention, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, d'accord, on connaît le principe, c'est la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de valeurs, d'accord, donc il y a d'autres choses qui sont véhiculées à travers ce qui est surprenant dans le texte. » Donc Rashi va nous dire « Attention, attention, quand Dieu demande à Moshe de monter sur la montagne, ce n'est pas, comme tu peux le croire, après l'histoire des 10 commandements, après l'histoire de Mishpatim, pas du tout. En réalité, on revient, on fait marche arrière, et ça s'est passé le 4e jour du mois de Sivan. Donc on remplit une nouvelle case, le 4 Sivan, voilà ce qui s'est passé. Moshe doit monter sur le mont Sinaï, donc on est avant le don de la Torah, pour recevoir telle ou telle chose, faire telle ou telle korbanot, etc. Donc il y a encore des choses à faire. Et c'est là qu'on va voir le fameux Naaseh Benishma. Ok ? Donc, c'est clair qu'il y a une volonté exprimée clairement de la part de la Torah que les Mishpatim apparaissent en plein cœur de l'histoire rapportée du don de la Torah. Parce que normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû trouver ? On aurait dû trouver tout un passage sur le don de la Torah, tout entier, d'accord, de A à Z. Ensuite, les Mishpatim, d'accord ? Et puis c'est tout, on revient pas sur un truc qu'on a déjà raconté. Pourtant, si la Torah décide de revenir sur l'épisode du don de la Torah à la fin de Mishpatim, c'est que volontairement, la Torah veut mettre les Mishpatim dans l'épisode du don de la Torah. C'est de là que l'on explique « Ve'elea Mishpatim » et voici les préceptes, les Mishpatim, les lois, d'accord, pour nous dire que quoi ? Que pour nous, effectivement, le Mishpat, les Mishpatim, font partie du don de la Torah. Et c'est quoi l'idée ? L'idée, elle est assez forte quand même, c'est la première idée importante, c'est que effectivement, les Mishpatim, c'est quoi ? C'est les codes, c'est les lois du code civil, c'est ça, Mishpat. Nous, dans nos sociétés, les lois du code civil, c'est une organisation politique, une organisation démocratique. Les lois appartiennent aux hommes, par définition, depuis tant et tant et tant de siècles. Les hommes font les lois. Et la Torah vient nous dire, dans la vision juive, ce n'est pas le cas. Dans la vision juive, les lois sociales, elles émanent d'Akadosh Baruch Hu, Ve'elea Mishpatim, de la même façon que les 10 commandements, elles sont données par Akadosh Baruch Hu, de la même façon que les Chukim, que toutes les lois surnaturelles ou surraisonnables, d'accord, elles émanent directement d'Akadosh Baruch Hu. Pour nous, les lois de la société, les lois du code civil, sont exactement au même titre que le respect du Shabbat ou que le respect de la Kashroute. C'est-à-dire que ces lois-là sont irrévocables, immuables, qu'elles ne peuvent pas être modifiées par les hommes, qu'elles ne peuvent pas être modifiées par la politique, qu'elles ne peuvent pas être modifiées selon les lois, les modes, les courants de pensée, les visions du jour, etc., etc. C'est par définition, de la même façon que le Shabbat, tu ne le touches pas depuis la création du monde, la valeur Shabbat, elle ne dépend pas de « est-ce que ça vaut le coup de faire un Shabbat ? Est-ce que c'est pas vieillot de faire un Shabbat ou de manger kasher, etc. » Et que ça émane d'Akadosh Baruch Hu, pour nous, les lois du code civil, ça émane d'Akadosh Baruch Hu. Donc un homme ne peut pas les modifier, une société ne peut pas les changer, les politiques ne peuvent pas voter pour ou contre, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Et donc, la vision est radicalement différente donc avec les nations du monde, déjà sur ce premier point, c'est que aux yeux des nations du monde, lorsqu'un individu respecte les lois du code civil, ne pas voler, etc., les lois les plus simples, d'accord, les plus rudimentaires, il le fait pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il les respecte, ces lois-là ? Parce qu'il a peur de se faire attraper. Il a peur de se faire attraper, il a peur du gendarme, il a peur de la police, d'accord ? Parce que si je me fais attraper, je vais être passé en jugement, etc. Mais il n'y a rien de moral dans le sens noble du terme, il n'y a rien de transcendant, ce que je veux dire. Il n'y a rien de transcendant, c'est quelque chose de, pour vivre en société, il faut respecter telle ou telle loi. Dans la vision juive, le fait de ne pas voler son voisin, de ne pas lui fracasser sa voiture, etc., c'est pas simplement parce que j'ai peur de me faire attraper par la police, c'est pas simplement parce que la loi me l'impose, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de transcendant dans le fait de ne pas voler, de ne pas casser les objets de son prochain, etc. En quoi c'est transcendant ? Parce que ça émane directement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et ça ne peut pas non plus être modifié. Ça veut dire que si un jour on décide dans une société que telle ou telle loi du code civil n'a plus lieu d'être et qu'on peut l'enlever, la modifier, etc., pour nous, c'est absolument impossible, puisqu'elles sont exactement au même niveau que le Shabbat, la Kashrout, elles émanent d'Akadosh Baruch Hu. Si ça émane d'Akadosh Baruch Hu, l'être humain n'a pas la main sur ces lois-là, et il ne peut donc pas les modifier selon les moments.
Une question un peu délicate. La judéité par la mère.
Ouais.
On sait qu'avant c'était par le père.
Alors il faut faire très attention là-dessus.
Alors, ma question, c'est, ce n'était donc pas une loi qui venait de la Torah ?
Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Ou pour être précis, cette loi, elle vient, oui, de la Torah, mais elle à partir du Matan Torah.
Comme toutes les lois orales, c'est ça ?
À partir du Matan Torah. Quand tu regardes dans le texte de la Torah, il est écrit explicitement que c'est la mère qui donne la religion.
Ah, donc c'est pas à partir d'Ezra ?
Eh non, c'est faux. Ça, c'est la vision non pas traditionnelle du sujet. C'est la vision pseudo-universitaire, scientifique du sujet. La vision traditionnelle des Tosfot, etc., c'est que c'est au Matan Torah qu'il y a eu le changement. Avant le Matan Torah, ça passait par le père, nécessairement, puisque ça passait par les patriarches, qui ont été les premiers. Et donc, du coup, leurs épouses sont rentrées dans leur système. Mais à partir du Matan Torah, il y a un verset clair dans la Torah.
Alors, pourquoi on...
De quoi ?
Pourquoi l'épisode d'Ezra où ils ont dit maintenant ça va passer par là ?
C'est pas écrit comme ça. C'est écrit, plutôt pour être clair, c'est écrit explicitement comme ça. Dans la Torah, il y a un verset qui est tout aussi explicite, en tout cas dans la vision rabbinique, le verset qui nous dit quoi ? Qui nous dit que un homme, tu ne dois pas donner ton fils en mariage avec une fille qui serait idolâtre. Pourquoi ? Parce que l'enfant serait tiré par les croyances de sa mère. D'après les Tosfot, c'est de ce passouk-là que l'on voit que c'est la mère qui donne la religion. Point final. Que Ezra vienne le stipuler à nouveau, parce qu'à ce moment-là, il y avait plein de mariages mixtes lorsqu'on était en Babylonie et qu'on revient en Israël, que Ezra vient taper du poing en disant « Oh, ça suffit, c'est quoi ces relations interdites que vous avez mis en place ?» Donc il le réexplicite de manière claire. Mais pour les Tosfot, pour les Chachamim, depuis le Matan Torah, c'est à ce moment-là que les choses ont été tranchées par le verset que je vous ai cité.
Donc quand un homme allait se marier, par exemple, avec une Moabite ou alors une fille qui n'était pas de son peuple, il a converti ça automatiquement ?
Bien évidemment, et on a des tas d'exemples, effectivement. Bien évidemment, mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore exactement le détail que nous connaissons de la conversion, les trucs, etc. Mais ça a été tout au long de notre histoire, ça. D'accord ? Donc, Laurent, tu avais une question ? Ah, Chazak, donc, c'est bien ce que je disais en introduction. Non, c'est pas grave.
Mais en plus, même, pour les mariages et des choses comme ça, on pouvait faire attention par rapport à Dieu, en fin de compte, les trois quarts, on ne fait pas attention. Et c'est plus par rapport à la famille, par rapport aux galères qui peuvent arriver.
Alors, c'est la déviance du système. Deux minutes, deux choses différentes. La déviance du système, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, ce qui nous fait plus peur, c'est la police, plus que Dieu. T'es bien d'accord ? Donc là, aujourd'hui, un gars qui ne vole pas la Banque de France, c'est pas parce qu'il a une approche transcendante du fait de ne pas voler. C'est parce qu'il se dit, si je me fais attraper, d'accord, je vais finir en prison toute ma vie. D'accord ?
Et même sans aller là, même le mec qui trompe sa femme, c'est vrai, c'est par rapport à peur des gens autour.
Chazak, mais il n'empêche que, normalement, dans l'approche idéale juive, c'est que pour nous, les lois du code civil, dans tous les moindres détails, d'accord, de ton taureau qui va encorner le taureau du voisin, pour nous, c'est divin. C'est divin. Donc, on peut les étudier, on peut les extrapoler, ça c'est le travail des Chachamim, les commenter, les expliquer, etc. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas les modifier. D'accord ? C'est impossible, ça ne nous appartient pas. Par exemple, l'exemple bien évidemment le plus évident, d'accord ? Si dans la Torah, on te dit qu'un mariage, c'est une rencontre entre deux opposés, radicalement opposés, parce que à travers cette rencontre des opposés, il y a un équilibre du tikkun du monde entier, etc. Eh bien, cette version-là, cette vision-là, elle ne peut pas être modifiée en disant « finalement, c'est sympa que deux personnes du même sexe puissent se marier ». Pour nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas concevable de modifier cela, parce que ce n'est pas simplement parce que c'était bon à un moment que la loi a été donnée et que du coup on peut la modifier, c'est que nous, si on considère que ça vient de Dieu et que Dieu est en dehors du temps et qu'il n'est pas influencé par le milieu, par les modes, etc., donc nécessairement, toutes les lois qui émanent d'Akadosh Baruch Hu, elles ont ce caractère-là, d'accord ? Immuable, intouchable, indémodable, enfin tout ce que l'on peut dire sur le sujet. Et donc, les lois du Shulchan Aruch, pour nous, le Shulchan Aruch, c'est notre code civil. Pour nous, le Shulchan Aruch, il est, concrètement, hein, d'accord, grosso modo, c'est comme un Sefer Torah. D'accord ? C'est quelque chose que tu ne touches pas, que tu adaptes, mais que tu ne modifies pas. Quand je dis adapte, ce n'est pas dans le sens d'adapter, c'est dans le sens de tu mets à jour. Ça veut dire des cas qui n'existaient pas à l'époque du Shulchan Aruch, on va les étudier pour savoir si oui ou non c'est autorisé ou interdit, mais on va le faire à la lueur de la vision globale et de la mentalité proposé par le Shulchan Aruch et ce qu'il y a avant, bien évidemment. D'accord ? Mais il n'empêche qu'on s'inscrit dans quelque chose d'immuable. D'accord ? Qui ne peut pas être un jour oui, ou ce qui était interdit un jour va devenir autorisé le lendemain. Pour nous, c'est impensable. Et tout ça, pourquoi ? Ça vient de la paracha de cette semaine. Véhélé. C'est tout, de ce mot-là. Et voici les lois du code civil, Mishpatim. Voici les Mishpatim. C'est comme le Matan Torah. Le Matan Torah, il est immuable. Les Chukim sont immuables. Eh bien, le Mishpatim, c'est tout aussi immuable. Tu ne touches pas, tu ne modifies pas ça. Mais ce n'est pas que ça. En réalité, c'est encore plus profond que ça. Et là, c'est ce que je disais en intro. C'est que là, vraiment, c'est une vision qui est radicalement opposée de ce que nous connaissons dans nos sociétés modernes, en France, etc. C'est une autre vision, c'est un autre paradigme en réalité, complètement. Et j'explique de quoi je veux parler. En fait, depuis 2000 ans, en fait, ouais, depuis 2000 ans, depuis le règne de la chrétienté, on a créé une distinction entre le religieux et le politique. Le politique s'occupe du politique, les religieux s'occupent du religieux. Quand je vous dis il y a 2000 ans, c'est pas simplement la loi de séparation de l'Église et de l'État. Hein. D'accord ? C'est vraiment il y a 2000 ans. Et pourquoi ? J'ai cité Shabbat. Il y a un texte qui est aussi confirmé par les Chachamim, mais qui vient du Nouveau Testament. Où là-bas, on pose la question à Jésus. On lui pose la question de savoir, c'est les rabbanim qui lui posent la question. Les rabbanim de la tradition rabbinique lui posent la question. Quelle est ta vision, lui disent-ils, entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux ? Réponse qu'il donne aux chachamim, sur lequel les chachamim, bien évidemment, ne sont pas du tout d'accord. Il va donner cette phrase qu'on connaît tous parce qu'elle a été déclinée de 50 façons différentes. Et il a dit quoi ? Il faut rendre à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Sachez que cette phrase, elle vient des évangiles. C'est la réponse donnée par Jésus aux rabbanim qui lui ont posé la question, quel est le lien qui existe entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux ? Et sa réponse, rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est de dire, écoutez, vous ne mêlez pas, ne vous mêlez pas, il y a deux trucs différents, c'est des sphères différentes. Ce qui appartient à César, donc aux hommes, au pouvoir, donnez ça à César, et le religieux, vous occupez du religieux. Mais il n'y a pas d'interaction entre les deux. C'est deux sphères totalement différentes. La vision juive ne s'inscrit pas du tout là-dedans. Parce que pour nous, en réalité, même si ça nous choque, parce qu'on a tellement l'habitude de vivre en France avec ce système-là qui, du coup, nous arrange bien, en fait, mais il n'empêche que dans notre vision à nous, en fait, ça ne marche pas comme ça. Pour nous, le civil, le religieux, le politique et le religieux, c'est lié étroitement. Le politique, il n'est pas indépendant. Le religieux n'est pas indépendant. C'est pour ça qu'on dit que le judaïsme, ce n'est pas une religion. C'est pas une religion, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de séparation d'univers avec d'un côté le politique et d'un côté le religieux. Pour nous, c'est un mode de vie.
Un code de loi.
C'est un mode de vie. Il n'y a pas, ah non, ça c'est le religieux, alors je ne m'occupe pas de religieux parce que moi c'est le politique ou inversement. Pour nous, ça n'existe pas, cette distinction-là. Hein ? De quoi, de quoi ?
Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les synagogues, si on prend l'exemple du synagogue, il y a un président qui s'occupe.
Mais qui a voulu ça ?
Napoléon.
C'est Napoléon qui l'a voulu. C'est Napoléon qui a créé ça.
D'accord, on va l'abolir.
Mais on n'abolit pas du tout, parce que finalement, dans le défaut de ce système-là, on est quand même bien content, parce que ça porte en même temps une certaine protection pour notre façon de vivre notre judaïsme. C'est pour ça qu'on l'a pas. Pourquoi on n'en est pas sorti.
Mais un niveau plus bas, au niveau synagogue, vous aurez pu prendre vous et le religieux et l'aspect. Tous les rabbins peuvent prendre le religieux.
Mais c'est ce qui se passe dans tous les bêtes à midrash qui ne sont pas consistoriaux, etc. Ben si, ben bien évidemment que si, on parle de ça. C'est ce qui se passe dans tous les petits lieux de prière, etc. C'est que le rabbin, il s'occupe de trucs. Alors il a bien évidemment des gens à côté de lui pour l'aider, d'accord, mais c'est lui qui gère le truc. Nous, dans le système consistorial, mais c'est Napoléon qui l'a voulu. Et tu sais pourquoi il l'a voulu, Napoléon ?
Parce qu'il voulait pas, il a dit aux juifs, vous ne pouvez pas mettre les lois de votre religion au-dessus des lois.
Ça, c'est clair. Et donc, je veux m'en assurer. Donc je vais mettre des laïcs.
Il ne pouvait pas discuter avec les rabbins. Parce que chaque fois qu'il y a un truc, il disait à un rabbin, voilà, nous on fait ça. Le rabbin disait, mais non, Dieu...
Donc, je vais mettre des laïcs pour gérer et m'assurer que les choses se passent comme il se doit. Mais je vous rappelle que la réflexion de base, c'est de se dire, je veux faire du judaïsme des églises chrétiennes. Pareil, c'est ça le modèle. Bien évidemment, avec des spécificités. Bah oui, il ne veut pas nous convertir, c'est pas ce qu'il a voulu. Mais il s'est dit, je veux le modèle, c'est l'Église. Et c'est quoi le modèle de l'Église ? C'est qu'il y a une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux.
En France, pendant des années...
C'est... Oui, mais ça a été... Khazak, combien de temps ils sont battus dans ce sujet-là ?
Le curé, c'était tout lui le... qui dirigeait...
Bien évidemment, c'était tout le truc de la Révolution. Mais en réalité, si tu remontes 2000 ans en arrière, c'est la phrase... Ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. Ça vient de là, en fait, c'est ça le pshat. Le pshat de ce pasouk, c'est un pasouk, d'accord, sur lequel les rachamim disent oui, il a vraiment dit. Il a vraiment dit. Les évangiles, j'ai cherché avant Shabbat parce que c'était mon cours. Du coup, c'est dans les évangiles, d'accord, si vous voulez la référence, je vous la donnerai. Mais c'est terrible, c'est-à-dire que des fois, cette phrase-là, nous, on la cite. Non, on la cite souvent, d'accord. En fait, le. T'as jamais cité cette phrase ? Mais si, bien sûr. En fait, cette phrase-là, elle est tout sauf juive. D'accord ? Elle est vraiment en déconnexion du judaïsme. Hein ? C'est vrai, hein ? Donc. Ça, mais bien sûr.
Quand quelqu'un invente quelque chose, tu lui dis, voilà, je rends à César ce qu'il a à César.
C'est mais oui, bien sûr, c'est super connu. C'est que c'est super connu comme phrase. Donc, bah ouais. Donc, ce qu'on voit ici, alors c'est vrai, hein, nous on peut dire, attends, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que pour nous, et c'est pour ça, il était où le siège du Sanhédrin ?
Dans le temple.
Il était dans le temple. Le siège du Sanhédrin, ça veut dire le tribunal civil qui rend les Mishpatim. Le siège, il est dans le temple. Pourquoi tu mets dans le temple ?
Dans le religieux.
Prazak. Parce que pour nous, le laïc, c'est du religieux. Il n'y a pas de laïc pour nous. Tout est une sphère divine. Il n'y a pas deux sphères différentes de pouvoir qui va prendre le pouvoir sur l'autre. En réalité, tout ça... Ça émane d'une volonté d'Akadosh Baruch Hu, certes qui est gérée par les rois d'un côté, par les Kohanim de l'autre, parce qu'il faut le concrétiser par des personnalités différentes, d'accord. Mais un roi, il n'est pas au-dessus des halachot. Il n'est pas censé l'être. Malheureusement, ça, il a été souvent, enfin, il s'est cru être au-dessus, mais il n'était pas censé le faire.
Kasher Zamam, c'est également en civil. C'est-à-dire que s'il a voulu, les témoins étaient confondus, ils ont la peine qu'ils voulaient.
Ouais.
Ah bon ?
Ah oui, c'est quoi votre question, je n'ai pas compris.
Ma question, c'est pas que religieux cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il avait,
qu'est-ce que vous voulez dire par que religieux ou que civil? Finalement, on a vu que c'est le même sujet.
Oui, d'accord. Mais en France, par exemple, deux témoins confondus,
ouais,
ils écopent de la peine qu'ils voulaient causer, en faisant un faux témoignage, pardon,
ouais,
ils écopent de la peine qu'ils voulaient causer au...
Exact, ça c'est les...
Dans le droit français.
Ouais. Vous parlez dans le droit français?
Ouais.
Ah, ok. Bah, dans le droit juif aussi?
Non, mais... Le droit juif, oui, mais dans le droit français,
je ne sais pas. Non, ma question, c'est en droit français, je ne crois pas que c'est le
nom. Ah, mais je. Ouais, bah oui, et alors?
C'est dommage et intérêt. C'est dommage et intérêt.
Bien sûr.
Si tu es qui doit prendre 15 ans de prison, l'autre ne prend pas 15 ans de prison.
Mais j'ai pas compris le fond de la question.
Mais là, je voulais savoir si ça s'appliquait aussi en droit français.
Non, c'est sûr que non. Mais quand je dis le droit civil, c'est-à-dire le droit civil juif, donc les lois de des dîmes aux mémimes, etc., qui s'appellent les lois civiles, mais juifs, bien évidemment. Pour nous, le code civil juif, en réalité, c'est religieux.
J'avais juste un
mot. D'accord.
Et le code civil de Napoléon, il s'est inspiré de beaucoup de...
Mais bien évidemment. Vous savez quoi? Quand j'ai fini mon cours Shabbat dernier, donc c'est un vrai cours de société, ça, d'accord? C'est une vision, quand tu présentes ça comme ça à un public large, c'est un vrai questionnement. Parce que du coup, qu'en est-il de la démocratie? Par définition, la démocratie, c'est quoi? C'est que c'est le peuple qui fait les lois.
C'est vrai que ça. Hein.
D'accord, vous êtes d'accord. Donc c'est un vrai... C'est pas habituel, quoi, dans notre système de penser à nous aujourd'hui en France depuis tant et tant d'années. D'accord. Donc, ça remet en cause tout ça. Quel est le véritable système politique qui est demandé par la Torah? Et effectivement, on sait très bien que c'est pas la démocratie. En tout cas, pas celle qu'on connaît, nous. C'est certain. D'accord. C'est un fait, j'y peux rien. Les gens disent, ah, oh, c'est choquant. Mais en fait, j'y peux rien. Je présente ce que la Torah nous dit. Donc, pour nous, la place du religieux, du civil, pour nous, c'est étroitement lié, d'accord, c'est la même chose. Le Sanhédrin, il est au Beth Amikdash. J'ai raconté même une histoire de la reine de Saba. La reine de Saba, elle a entendu parler de la grande sagesse du roi Salomon. Elle en était impressionnée. Du coup, elle se dit, ouais, c'est quoi, c'est une fausse réputation, c'est un peu gonflé, etc. Elle dit, je vais aller vérifier.
Elle posait des énigmes.
Exactement. Elle a été voir le roi Salomon, elle avait des tas d'énigmes, des questions métaphysiques, etc. Elle avait plein de questions à lui poser. Elle y va, mais alors elle va avec le kavod, hein. Vraiment, elle fait les choses bien. Elle va avec des animaux, des cadeaux, des machins. Elle est impressionnée. Elle lui pose les questions, il lui donne les réponses, elle est encore plus impressionnée. Du coup, elle regarde un peu le fonctionnement du pays, du royaume, de la direction politique, d'accord. Elle regarde le fonctionnement, elle voit, waouh, c'est propre, c'est nickel, il y a le palais du roi, et elle constate qu'il y a, entre le palais du roi et le temple de Jérusalem, des marches. Il y a un escalier privé, pratiquement privé, qui permettait au roi d'accéder au Beth Amikdash très rapidement.
Je crois qu'elle lui a dit, il vaut mieux pas, non?
Quand elle a vu ça, elle n'a pas compris. Elle dit, je ne comprends pas. C'est au-delà de ma perception du monde. Parce que ces escaliers que tu as fait construire entre ton temple à toi, le roi, et le temple divin, ça crée un lien, une dépendance entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Or, elle se dit, c'est impossible. C'est impossible, le pouvoir politique, il est au-dessus. Il n'est pas dépendant de quoi que ce soit. C'est moi la reine, c'est machin, je fais les décisions que j'ai envie. D'accord, je ne m'en remets pas à quelque chose de supérieur à moi-même. Le roi Salomon, volontairement, il a créé ces marches entre son palais et le Beth Amikdash pour montrer que tout roi qu'il est et tout pouvoir qu'il a, politique, etc., il ne voudrait diriger son peuple que en s'inscrivant dans un truc religieux. D'accord. Et donc ça, c'est marquant pour nous. Et effectivement, c'est une vision qui est radicalement différente des sociétés modernes. Puisque dans les sociétés modernes, qu'est-ce qu'on a fait depuis en France, depuis la Révolution, etc. C'est qu'on a séparé l'Église de l'État. C'est qu'on a mis en dehors d'État de nuire le religieux sur le politique. D'accord. C'est pas vous qui décidez. Vous n'êtes pas ni les professeurs d'école, vous n'êtes ni les maires de ville, vous n'êtes plus rien. D'accord. Vous êtes dans vos églises. Cette approche-là... Véhélé à Mishpatim, ça ne colle pas avec la vision idéale du judaïsme. D'accord? Pour nous, Matan Torah, le don de la Torah et les Mishpatim, c'est ensemble, ça marche ensemble. Et maintenant, vous comprenez pourquoi dans les Tehilim qu'on lit tous les matins, on lit dans les Tehilim, dans les Alléluia après le Hachré. Ouais? Ou Mishpatim, Bal, Yedaoum, Alléluia. On dit quoi? On dit que Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël. Ouais. Il a donné les Chukim. Il a donné les Mishpatim. Mais les Mishpatim aux nations du monde, il ne les a pas donnés. Et là, on peut se dire, mais attends, mais si. Bien sûr qu'il a donné les Mishpatim aux nations du monde. Ne pas tuer, ne pas voler, la responsabilité civile, etc. Bien sûr, c'est les Mishpatim. Il les a donnés aux nations du monde. Que tu me dises qu'il n'ait pas donné les Chukim, le Shabbat, la Kashrout, etc., le Shatnez. Ah oui, ça, effectivement, il n'a pas donné aux nations du monde. Mais les Mishpatim, bien sûr qu'il les a donnés aux nations du monde. Eux aussi, ils les ont, comme nous, d'accord. Et d'ailleurs, c'est une grandeur des sociétés, c'est d'avoir mis en place des tribunaux, etc. C'est très bien les Mishpatim, les nations du monde, elles ont des Mishpatim, comme nous. Pourquoi on dit dans les Tehillim, Mishpatim, Bal Yedaou, maintenant, il ne leur a pas donné les Mishpatim. Il leur a donné. Réponse, c'est que non, en fait. Il n'a pas du tout donné la même vision que nous avons des Mishpatim. Pour nous, les Mishpatim, c'est du religieux. Pour les nations du monde, les Mishpatim, ce n'est pas du religieux, c'est du civil. C'est la démocratie, c'est le peuple, etc. C'est ça qu'on vous dit tous les matins. D'accord que les Mishpatim, il ne les a pas donnés aux nations du monde, mais il les a donnés à Israël dans le sens de, au même titre que les Chukim. Chukim ou Mishpatim, c'est exactement au même titre. Et ça, effectivement, c'est complètement différent. C'est complètement différent et ça nous pousse au raisonnement, hein, d'accord, à la réflexion, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie, etc. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de mettre les Mishpatim au même titre que les Chukim et que de la parole d'Akadosh Baruch Hu vraiment au même titre. C'est vraiment compliqué parce que du coup apparaît le truc de ah oui, mais c'est du coup l'interprétation humaine, les ratés humains, etc. Enfin voilà, c'est tout ça que ça engendre comme réflexion.
La base des libéraux, c'est de dire effectivement les lois ont été créées par des êtres humains, en fait.
Oui, et donc du coup, on peut les modifier. Du coup, on peut les modifier, on peut les adapter. Il y a des choses qu'on peut enlever, des choses qu'on peut rajouter, des choses sur lesquelles on peut truc.
Il y a aussi une règle qui dit qu'il faut se conformer aux lois du pays.
Alors ça, c'est encore autre chose. Donc, mais il n'empêche que... Non, pas nécessairement. Que le fameux din de Dina de Malchuta, qui est alors, ce truc-là, c'est vraiment un génie du peuple juif. Ça, c'est vraiment un génie du peuple d'Israël de l'époque de la Gemara. Donc c'est quand même hyper ancien. D'accord, c'est vraiment un génie de se dire, écoutez, on est un peuple, on va vivre pendant pas mal de temps a priori en exil, d'accord, et il va falloir que l'on s'intègre et que l'on accepte de respecter les lois du pays. Mais il y a quand même plein de précisions sur ça. C'est à condition que ça n'aille pas à l'encontre d'une loi de la Torah. Bah bien évidemment. Ah bah oui, c'est très compliqué. Alors le truc, aujourd'hui tu peux pas dire le moindre mot parce que tu te fais flinguer. D'accord, mais il n'empêche que. Alors nous on a Baruch Hashem, c'est ça l'intelligence juive aussi, c'est qu'on a toujours su adapter, ne pas faire de vagues, etc. Donc ça fait partie de la chorma du peuple d'Israël, à travers les Chachamim bien sûr. D'accord, qui nous ont guidés dans notre façon de vivre. Mais ça veut pas dire que. Enfin ça va pas à l'encontre de notre principe là. Puisqu'en fait, ça va finalement quand il y a quelque chose en plus.
Et le pouvoir.
Quand dans le pouvoir du pays dans lequel tu vis, il y a des choses qui sont imposées en plus que dans la halakha, tu dois le respecter aussi. Ça veut dire quoi? Par exemple, pour le mariage, s'il y a écrit dans le code civil que pour pouvoir te marier religieusement, il faut forcément d'abord passer par la mairie, pas de problème, Dina de Malchuta Dina. Ça me gêne en rien, d'accord, de respecter cette loi-là. C'est un plus. C'est quelque chose en plus. C'est une rigueur supplémentaire. D'accord? Mais effectivement, ils ne peuvent pas retirer. Ils peuvent rajouter, mais pas retirer.
Et le pouvoir a su aussi, quand les Juifs, à l'époque de Napoléon, ont accepté ça, il a su aussi s'adapter en mettant des aménagements. On prend des examens le Shabbat pendant très longtemps. Il y en avait qui rataient leurs années simplement parce que tu avais des examens qui tombaient le Shabbat, tous les fêtes, tout ça. Aujourd'hui, ils tiennent compte énormément dans les bacs, dans certains diplômes, que ça ne tombe pas ni pendant des
fêtes. Ça pose encore plein de problèmes.
Hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
C'est
ouais, c'est clair.
Par rapport à 200
c'est,
ans,
c'est clair, c'est clair. Non, c'est compliqué.
Les jeux de la con par rapport au fait. Parce que maintenant, il y a un nouveau problème qui est également les musulmans.
Bien sûr, bien sûr. C'est vrai.
On ne peut pas dire à toi.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, ça devient plus compliqué. Ouais. C'est vrai. Mais les examens nationaux, par exemple le bac, lui, par contre, le bac, ils prennent en compte toutes les fêtes.
Mais
son mois de juin. Bah, ça pourrait très bien tomber pendant Shavuot. Non, pour le bac, on sait très bien, parce que c'est national, c'est le ministère qui gère, d'accord. Alors que les universités, elles ont une indépendance par rapport à ça. C'est pour ça que c'est très gênant.
Aujourd'hui, concrètement, un conflit entre deux juifs en France, on doit saisir le Bet Din.
C'est clair que oui. C'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch.
Deux juifs qui reconnaissent
le Bet Din. Ah, bien évidemment. Donc tu me poses la question. Deux juifs qui se posent la question, ils ont un conflit. On a le droit d'avoir des conflits, hein, y a aucun problème. on a un conflit, on n'est pas d'accord sur un truc, etc. Normalement, alors en France, le Beddin, il a des pouvoirs limités. Mais imagine, tu es en Israël, d'accord, où là, tu as un pouvoir, tu as la justice civile et la justice religieuse. Et là-bas, les Dayanim sont en mesure de donner tous les jugements possibles. D'accord ? Eh bien, là-bas, si tu as les deux juifs en question qui sont d'accord et qui reconnaissent effectivement l'autorité du Beddin, ils doivent aller au Beddin.
Le Beddin est reconnu par
en Israël, oui.
La loi civile.
En Israël, oui. En Israël, si les deux parties... De quoi, de quoi ? Pour ceux qui ne veulent pas. Il y en a plein qui ne veulent pas. Ils disent, on ne veut pas passer chez les rabbins. Bien sûr, bien sûr. Mais en Israël, c'est la loi aujourd'hui. Si les deux parties signent un papier disant « Nous nous en remettons à la volonté et aux décisions du Beddin et on respectera les volontés du Beddin », ça colle.
Oui, en France, il n'y a pas un truc comme ça où...
Pas surtout. Pas surtout.
C'est consultatif en France ?
Ouais. Ouais. D'accord ? Après, tu peux porter directement ton affaire au Beddin au lieu de le porter au tribunal. Ça, c'est tout à fait possible.
Ils sont plus marqués au Beddin ou au civil en Israël ?
Je sais pas, honnêtement, je sais pas, il faudrait faire le... vous savez ce qu'elle dit, la Gemara, hein. La Gemara, elle dit, même si tu sais que dans le civil, ils vont juger ton affaire exactement de la même façon, tu dois quand même aller au Beddin. C'est écrit comme ça. Donc imagine sur un sujet, je sais pas lequel, d'accord, c'est exactement les mêmes lois. Imaginons un truc où c'est vraiment les mêmes lois. Eh bien, la halakha nous dit, tu dois quand même aller au Beddin.
C'est chinour.
D'accord ? Exactement. Et aussi, la kedusha du Beddin. D'accord ? Je vous rappelle que les juges en hébreu, dans la Torah, on les appelle... Non ? C'est faux. On les appelle Elohim. Vous vous rendez compte ? Ils sont porteurs. On les appelle Elohim.
Mais c'est la notion de rigueur et de justice.
Oui. Et de Yirat Shamayim. Et de Yirat Shamayim, de crainte du ciel. D'accord ? Donc voilà. Donc ça, c'est Mishpatim. Voilà ce qu'on appelle, nous, les Mishpatim.
Il y a toujours un Avbeddin en France, maintenant, ou pas ?
Bien sûr. En France, il y a pas. Non, en France, il n'y a pas.
Voilà,
il n'y a pas un pour la France. Il y a pour les différents Batedinim de France. D'accord ? Mais il n'y en a pas un. Le grand rabbin Citruc, il avait essayé de faire ça. Il n'avait pas été suivi. Non, ça, c'est Paris. Il a toujours été Paris. À l'époque du Rav Citruc, il avait essayé, enfin, il avait même réussi un moment, de faire avec le Rav Gross une pointure énorme. Oui, c'est vrai, il y a des trucs qui sont reconnus, etc. Oui, il y a quand même eu.
C'est l'accident de voiture.
Ah, bah,
le mec qui marche avec la poudre, le mec qui marche avec la cruche.
C'est certain. C'est certain. Mais il y a plein de trucs de la Gemara qui sont extrapolés. D'accord. Donc voilà, c'était juste pour attirer votre attention sur le fait que le système dans lequel on vit, bah, finalement, la Torah, elle a une autre lecture. Elle propose autre chose. D'accord, de système. Alors, c'est ce qu'on espère un jour dans un monde idéal. Hein, mais pour nous, voilà, c'est ça la place du Mishpat dans les lois de la Torah, quoi. D'accord, chose complètement, nouvelle par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans nos sociétés occidentales.
C'est le jour où ils abolissent la loi de Dina.
Hazak, c'est pas pour autant qu'on va dire Dina de Madopradina et qu'on va plus la faire. Parce que ça peut pas enlever, ça peut que rajouter. Hazak, messieurs. Gemara.